Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Adrien Montagu.
Bonjour Julien.
Ouais, je suis content de te recevoir, Adrien, dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je rencontre ceux et celles qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Aujourd'hui, nous allons parler de technologie, et c'est justement grâce à cette technologie que nous échangeons, puisque cet échange se fait à distance. Et toi, Adrien, la technologie, hein, d'ailleurs, tu es particulièrement bien placé pour en parler, car tu as cofondé Common, une entreprise strasbourgeoise proposant des téléphones et des PC à la location pour les particuliers et les professionnels. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît ?
Alors, déjà, c'est une coopérative, et ça, on en est assez fiers, qui donc promeut une électronique plus responsable, sachant qu'aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué de faire de l'électronique responsable à 100%. Enfin, on en est à des années-lumière, en fait, de la responsabilité dans ce secteur-là. Et le premier des leviers qui permet de limiter la casse, pour ainsi dire, c'est d'allonger au maximum la durée de vie des appareils que l'on possède, puisque ceux-ci ont des coûts sociaux et environnementaux désastreux en amont de leur production. Et également en aval, puisqu'on va retrouver des déchets dans des charges à ciel ouvert en Afrique. Enfin, c'est assez catastrophique. Et donc, pour ça, pour essayer d'allonger au maximum la durée de vie des appareils, nous, ce qu'on va proposer, c'est de la location sans aucune forme d'option d'achat, de produits plus réparables. Donc, on connaît notamment le Fairphone, qui est donc un smartphone qui se démonte très facilement, qui intègre des métaux libre de conflits, ils essayent de travailler vraiment sur toute la chaîne de valeur. Après, du côté des ordinateurs, on va également travailler avec des assembleurs qui partagent notre vision, qui proposent des ordinateurs soit plus réparables, tels que les ordinateurs portables Wi, qui est un assembleur suisse, ou alors des ordinateurs un petit peu plus sobres et moins gourmands d'un point de vue énergétique que sont nos PC fixes qui sont assemblés par PC Vert, par exemple. Et là, récemment, en fait, pas plus tard que la semaine dernière, on vient de lancer une nouvelle offre de casque audio réparable et modulaire, puisque là, ben, typiquement, je fais cette interview avec un casque filaire, pour le coup. Et donc là, on va proposer des casques Gerard Street. Donc, c'est un constructeur qui est aux Pays-Bas, qui propose des casques modulaires uniquement à la location. Eux, ils sont directement partis uniquement sur la location parce qu'ils ont vraiment perçu l'intérêt de ce modèle. Donc voilà, donc là, on essaye de rassembler petit à petit tous les producteurs qui vont dans cette bonne direction pour aller vers ce modèle d'usage qui nous semble beaucoup plus pertinent, parce que si on a un intérêt à ce que les appareils durent, ben forcément, on ne va pas provoquer le renouvellement des appareils par tout ce qu'on va appeler obsolescence marketing, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a construit notre coopérative, et ça fait bientôt 3 ans qu'on est lancé dans cette aventure.
On va revenir à l'aventure de Common, qui est hyper intéressante. On va parler de l'usage, on va parler de tout ça, de ce que vous avez mis en place avec le système de location. Mais avant, j'aime bien rentrer par la porte métier. Et en regardant un peu, j'ai découvert, toi, Adrien, tu étais chimiste. À la base, tu te destinais à une carrière de chimiste. Tu as fait un sacré chemin professionnel là, ces dernières années, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait, effectivement. Alors, initialement, au tout début, je voulais sauver des vies en développant des nouveaux médicaments. Et pourquoi je voulais faire ça ? C'était parce que j'avais découvert la chimie organique dans le cadre de mes formations. Et la chimie organique, c'est assez excellent. C'est jouer au Lego, en fait. C'est faire des Lego avec du pétrole. grosso modo. Et puisque le pétrole aujourd'hui est partout, hein, des produits pharmaceutiques aux bouteilles en plastique en passant par le béton et nos téléphones aussi. Et donc, en tant qu'ancien fan des Lego et Lego Technique, j'ai adoré la chimie organique parce que ça mettait à profit ma créativité. Donc, j'ai poussé le chemin jusqu'au doctorat et puis j'ai fait ensuite un an dans une start-up et deux ans en post-doc, toujours en chimie organique. Et puis je suis arrivé au constat que des gens qui allaient trouver, enfin il y avait suffisamment de gens qui cherchaient des solutions alternatives au pétrole, suffisamment de cerveaux brillants qui travaillaient sur cette question, et je suis pas certain que ça soit possible de le faire, puisqu'il y a tout un volet en ce moment de ce qu'on appelle la chimie verte qui cherche à remplacer le pétrole en trouvant des substituts dans la nature. On va prendre des arbres, de l'écorce d'arbre par exemple, on va la déconstruire pour essayer de faire des briques qui vont nous donner ces éléments constitutifs dont notre société est excessivement dépendante. Et donc, au cours de ma carrière, j'ai essayé de me reconvertir en restant chimiste vers quelque chose de plus vertueux, vers la chimie verte et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, ça ne satisfaisait plus mon besoin d'urgence, en fait, d'urgence d'agir, de besoin concret d'essayer de faire avancer les choses. C'est aussi arrivé en lien avec la sortie du documentaire Demain, parce qu'en fait, c'est ce qui m'a vraiment fait vriller, c'est ce documentaire-là, qui est donc qui est sorti en 2015, où en fait, on montrait à l'écran des gens qui s'épanouissaient par l'action, en lien avec des problématiques de résilience, de lutte contre le réchauffement climatique, etc. etc. Et je n'ai pas retenu de ce film qu'il y avait des solutions qui allaient permettre de sauver le monde, parce que j'avais déjà conscience avant ce film qu'on était très très mal engagé. Mais j'ai retenu de ce film que agir, c'est juste exceptionnellement jouissif. Et j'avais envie de faire ça, en fait. En tant chimiste, j'avais une potentialité d'action qui me semblait assez réduite. Donc, j'ai commencé par coordonner pendant deux ans un festival associatif sur le campus d'Orléans, qui était en lien avec la transition. Donc là, le but, c'était d'amener Demain et toutes ces thématiques pour les étudiants, montrer les alternatives, faire venir des associations. Enfin, on a fait ça pendant deux ans, c'était excellent. Et cette expérience-là m'a montré que je pouvais mettre à profit ma créativité et les compétences que j'avais, si tant est que j'avais acquis des compétences au travers de mon doctorat. En tout cas, je pouvais mettre à profit plein de choses dans d'autres domaines que la chimie organique. Et donc, ça m'a conforté dans l'idée d'une reconversion. Et quand un ami d'enfance, à savoir Eli Assema, un de mes associés qui a l'initiative de Common, m'a proposé de m'associer sur la création de cette coopérative, j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Je ne sais absolument pas ce que je vais être capable d'apporter, si ce n'est mon enthousiasme. Et allons-y, gaiement, quoi. Et il s'avère que l'enthousiasme, en fait, c'est quand même assez utile. Et je me retrouve donc aujourd'hui ambassadeur de notre vision, chargé du plaidoyer, parce qu'on fait quand même pas mal de plaidoyer avec Common, pour essayer de tirer la couverture dans le bon sens, en lien avec tout ce qui est la communication extérieure.
Donc tu es quand même, toi, en charge un peu du récit désirable de Common, en fait, de cette électronique durable.
Voilà, on est tous profondément imprégné par ce récit-là, et c'est la genèse de Common, elle s'inscrit dans ce récit.
Ouais.
Mais moi, je suis son orateur le plus récurrent, on va dire. C'est moi qui essaye de le diffuser dans différentes sphères, que ce soit au travers des festivals associatifs où je vais faire des interventions sur des tables rondes ou éventuellement des conférences, dans des écoles d'ingé, auprès d'instances décisionnelles. Par exemple, on a fait on a fait des interventions chez France Stratégie, auprès de l'Ordre National des Experts Comptables. On est allé voir aussi du côté de Bruxelles à l'Union Européenne. Et puis aussi, on essaye de porter cette vision, parce qu'on y reviendra après à notre vision, hein, mais cette vision qui est, pour certains acteurs, assez radicale, on essaye de la porter dans des sphères de décision qu'on n'aurait pas pensé atteindre aussi rapidement, que sont par exemple les groupes de travail qu'a mis en place le gouvernement sur la conception de l'indice de réparabilité qui va être mise en place dans le cadre de la loi économie circulaire, par exemple. Eh bien, on a pu s'inviter dans ces réunions-là pour opposer notre vision à celle d'acteurs plus traditionnels tels que le sont les constructeurs, on va dire, classiques. Et on s'épaule et on essaye de s'entraider avec les ONG qui sont présentes et qui font un travail considérable aussi dans ces réunions-là, quoi.
Qu'est-ce qui a fait qu'au moment où Eli est venu te voir, tu te sois dit, ben oui, là, en fait, le sujet de l'électronique, c'est suffisamment important, suffisamment impérieux pour que j'y dédie mon énergie et mon temps, parce que finalement, au regard de la situation actuelle, les défis climatiques, alimentaires, de la biodiversité ont des ramifications, c'est sûr, assez diverses, mais ne me font pas tout de suite, moi, penser à la technologie.
Oui. En fait, j'étais dans une période avec un degré de révolte que je porte toujours, qui est assez faramineux. Et j'avais envie d'hurler après tout ce que je constatais dans le monde de mes yeux. Et un de mes sujets qui me mettait le plus hors de moi, c'était cette gabegie de ressources que représente aujourd'hui l'électronique dans tout cet aspect malsain qu'on a de concevoir le marketing pour inciter à la consommation de nouveaux produits puisqu'ils sont sexy, on va rajouter des caméras par-ci, on va faire des smartphones pliables par-là, etc. Ça, pour moi, c'était un des trucs qui me touchait, d'autant plus que ça surexploitait une ressource. En fait, je suis parti pour je reviens un tout petit peu en arrière. Je suis parti du pic pétrolier. J'ai dédié ma carrière au départ au pic pétrolier quelque part puisque je travaillais sur la valorisation du pétrole et puis à la fin j'essayais de trouver, on va dire, des alternatives à cette brique là. Et je constatais en tant que chimiste que l'humanité allait reproduit exactement systématiquement tout le temps les mêmes erreurs sur les ressources qui l'environnent. Et donc là, les ressources qui nous occupent dans le domaine électronique, ça va être les métaux, les terres rares, les éléments de transition, etc. Et ce sont une ressource qui est par définition limitée puisqu'on est sur une terre finie, comme tout le monde le sait. Et donc je voyais arriver cette nouvelle révolution technologique, certains qualifiaient les terres rares de nouvel or noir, etc. En mode, ok, on repart sur une approche extractiviste, production de déchets. Et ça faisait partie d'un des sujets qui me révoltait tout autant qu'un autre. Et la perche que m'a tendue Ellie m'a permis de m'attaquer à bras le corps à un sujet qui me révoltait. Mais si Ellie m'avait proposé un autre sujet tout aussi révoltant en lien, par exemple, je sais pas moi, avec l'agriculture intensive, peut-être que j'aurais saisi la balle au bon. En fait, c'est juste que le projet est arrivé au bon moment et j'étais à un degré de maturité où je pouvais tout claquer pour pouvoir essayer d'agir dans une des révoltes qui m'animaient, quoi.
Et en même temps, tu vois, je t'écoute et je me dis, mais en fait, en parlant de révolte, moi, ce qui me révolte, c'est la concentration de la richesse et c'est le fait d'arriver à monétiser maintenant même notre attention, nos données. Et quand on regarde, en fait, qui s'occupe de ces affaires-là, bah, c'est les fameux GAFAM avec Google, Apple, notamment, et Microsoft et Facebook. Et en fait, ce sont des entreprises dites technologiques, avec Amazon aussi, dites technologiques qui ont en fait réussi à faire en sorte que cette innovation débridée et cette propriété à l'extrême puisse générer des milliards et des milliards concentrés dans les mains de quelques-uns. Donc finalement, ça a du sens.
Oui, oui, ça aussi. Enfin, clairement, l'accaparation par les GAFAM du numérique, c'est une des... C'est un peu comme si à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait eu un énorme capitaliste qui arrive, qui met la main dessus et qui vend de page après page les livres qu'elle contenait, puisque le numérique aujourd'hui, c'est quand même l'accès à une connaissance fabuleuse et c'est un outil de résilience qui est quand même intéressant à conserver. Et on voit que il a été complètement phagocyté par des acteurs dont l'approche mercantile n'est plus à démontrer. Et donc, ça aussi, ça faisait partie des enjeux autour desquels, avec comment on essayait de lutter. Puisque déjà, premièrement, si Ellie m'avait proposé de monter une start-up en mode « on va gagner des millions, ça va être fabuleux, dans 5 ans, on va faire rentrer commande en bourse », à aucun moment, je serais peut-être encore chimiste ou je serais sans doute déjà dans une ferme. Mais très clairement, ça n'aurait pas matché, quoi. Donc là, le projet de monter une société coopérative d'intérêt collectif, ça répondait aussi à ce besoin d'équité, de juste redistribution des richesses et de lutte contre le modèle dominant qui tend uniquement à la compétition et pas à la coopération. Et puis également, au travers de nos offres, on essaie de pousser les utilisateurs à se passer des GAFAM, puisqu'on va mettre en avant Linux sur nos ordinateurs, on met en avant des systèmes alternatifs sur nos téléphones. On est toujours dans la recherche de maximiser la cohérence des offres qu'on propose et maximiser la cohérence de notre action. Mais c'est très compliqué parce que on part de très loin. Donc voilà, on essaye de faire notre mieux sur les différents volets qui sont afférents au numérique. Quoi.
Et donc, en fait, pour revenir à Common, en fait, vous êtes vraiment le négatif d'une grande entreprise comme Apple, puisque vous n'êtes pas une entreprise qui génère du profit, mais une coopérative. Vous ne vendez pas des produits avec le rythme le plus soutenu possible, mais vous les louez. Et puis en plus, vous faites en sorte que ces produits, ils aient eu dès le départ le moins d'impact possible.
Voilà. Alors nous, on construit pas les appareils, hein, qu'on s'entende bien. On sélectionne des appareils qui essayent de minimiser leur impact au maximum. Et après les avoir sélectionnés, on les propose dans le cadre de nos abonnements. Et voilà. Et après, sur la lucrativité limitée, on n'est pas non plus une ONG. L'objectif, c'est quand même d'être rentable. Et donc, malheureusement, j'ai envie de dire, on est encore dans une approche pour l'instant de croissance, puisque pour lancer notre activité, on a besoin d'atteindre un seuil de rentabilité. Et donc là, pour parler chiffres, ben on a mis 900 appareils en circulation. On espère atteindre entre 2000 et 2500 pour pouvoir dégager des salaires pour les associés. Mais donc on est dans une croissance, parce que j'ai pas encore réussi à trouver pour l'instant de modèle décroissanciste qui permette de générer profit. C'est juste complètement oxymorique, mais voilà.
Dernière question sur Command. Je ressens beaucoup de réticence, moi, quand je parle de cette initiative sur la question de l'usage plutôt que de la propriété, sur la question de la location, et je me rends compte qu'il y a une éducation et une pédagogie absolument nécessaire sur en fait la vraie valeur des choses. Comment vous abordez ces sujets, vous, comment vous accompagnez les consommateurs à se rendre compte de la vraie valeur d'un objet technologique?
Alors ça, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, en fait, l'intégralité du marché, il nous pousse à penser qu'un smartphone à 200 euros, voilà, j'ai un smartphone à 200 euros qui est hyper performant, qui prend des photos en 4K, machin, c'est fabuleux. Et donc, le référentiel prix, il est complètement biaisé puisqu'il se base sur des produits qui n'intègrent absolument pas toutes les externalités négatives qui sont associées à notre consommation d'électronique aujourd'hui. Et de fait, moi, j'ai toujours tendance à dire que si on devait donner un juste prix à un smartphone, j'exagère volontairement, mais je pense que ça serait de l'ordre de 10 000 euros puisqu'il faudrait relocaliser l'intégralité de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'on devrait commencer à ouvrir des mines de terres rares en France, si tant est qu'on ait la ressource, dans des conditions environnementales décentes, qu'on fasse travailler les personnes aux 35 heures dans des conditions sanitaires respectables, qu'on assemble l'intégralité de nos appareils dans des unités de production locales avec là aussi la règle, les droits du travail français respectés, etc. etc. À la fin, l'ardoise, elle serait juste astronomique en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui où on va aller extraire du tantal en Afrique dans des mines détenues par des milices armées qui vont exploiter des gamins parce qu'ils sont bien pratiques, ils sont petits, peuvent aller se faufiler dans les trous au fond des cavités, quoi. Ensuite, on va aller assembler ces composants-là en Chine où on va avoir, dernièrement, c'était l'entreprise qui produisait Alexa, les enceintes connectées d'Amazon, là, qui se retrouvait à forcer des étudiants, des lycéens à aller bosser les week-ends ou la nuit, je ne sais plus, pour valider leur diplôme. Donc, voilà, on n'a absolument pas conscience de tout ce qui se passe autour d'un produit qu'on consomme. Et de façon générale, que ce soit dans le textile, dans tout, il y a des domaines dans lesquels on arrive de plus en plus à prendre conscience de ça, notamment en lien avec l'alimentation qui a percé le plus rapidement autour de ces questions. Mais dans un produit tel qu'un smartphone, qui est peut-être l'incarnation la plus parfaite de ce qu'on a su faire en termes de mondialisation, on dit qu'un téléphone, il a fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans sa poche parce qu'il y a vraiment des acteurs partout sur le globe qui sont mobilisés pour pouvoir produire un seul appareil. Ben forcément, si on essaye de regarder le tableau global de ce qu'il y a derrière un téléphone, c'est colossal. Et souvent, les gens, c'est compliqué d'aller dans les rechercher tout ce qu'il y a derrière. Donc, nous, on essaye de communiquer autour de ça. Maintenant, on va pas dire aux gens, ben voilà, normalement, un téléphone, ça devrait coûter 10 000 euros. Et en soi, c'est bien, mais ça apporte pas de réponse parce que le marché, lui, il en est pas là. Donc, nous, on essaye de proposer les prix les plus justes. Sachant que on est une coopérative, donc on n'a pas pour vocation, par l'intermédiaire de nos mensualités, de ponctionner le plus possible nos clients, puisque les clients, d'une part, dans le cadre de la coopérative, ils peuvent être sociétaires et donc prendre part aux décisions de la coopérative, avoir accès au bilan comptable et voir si on ne fait pas n'importe quoi. Et puis, nos offres, elles sont conçues pour avoir des mensualités qui soient dégressives dans le temps, pour inciter les gens à conserver leur appareil le plus longtemps possible. Mais il est vrai que la remarque qu'on nous fait souvent, c'est « Oui, mais alors si je prends un appareil chez vous, après X années, c'est comme si je l'aurais acheté. » Et donc, les gens, là où ils ont du mal avec notre modèle, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le service, en fait. Et donc, forcément, si on compare d'un côté l'achat pur et simple et d'un autre côté la location avec service, si on ne prend pas en considération le service, on occulte complètement notre solution ne fait pas de sens, puisque vraiment, un des cœurs de notre modèle, c'est le service qu'on apporte en complément des appareils.
Le service de sélection des produits qui sont les plus justes, le service de réparation.
C'est le service de réparation, l'assistance à l'usage, la prise en charge des pannes, des casses et des vols. Quelle que soit la raison, on n'est pas un assureur qui va mettre un petit alinéa en bas du dossier en mode « Oui, mais alors attendez, c'est le chien de votre voisin qui a fait tomber le téléphone, du coup, il va falloir voir s'il a une assurance civile. » Enfin bon, donc voilà, on est en mode « Ben voilà, vous cassez votre appareil, ben on vous le remplace une fois par an, forcément, parce que ben on n'est pas dans une approche non plus de cautionner des gens qui pourraient ne pas prendre soin de leur appareil. Donc, s'ils viennent à casser une deuxième fois l'appareil dans la même année, ben, ils vont devoir payer le prix d'achat de l'appareil. Et là, ça va commencer à piquer un petit peu. Donc voilà, donc on est vraiment dans une approche de service tout inclus où le client, il va avoir la garantie d'avoir un appareil fonctionnel en permanence. C'est ça qu'on promet. C'est pas vous allez avoir un appareil plus responsable. C'est certes, vous allez avoir un appareil qui est plus responsable, qui porte vos valeurs, mais aussi vous aurez la garantie que celui-ci soit le plus fonctionnel, quelle que soit la durée d'usage. C'est-à-dire que si, par exemple, l'appareil tombe en panne 4 ans après le début du contrat, il n'y a pas de question de garantie constructeur. On va s'engager à réparer l'appareil, quelle qu'en soit la raison de la panne.
Ouais, c'est à des années-lumière, effectivement, de ce qui se fait dans le marché classique. On pourrait en discuter encore pendant des heures. Hein. Tu es un spécialiste de ce sujet, ça se sent. Tu l'as dit, tu es un orateur émérite et tu as eu l'occasion d'aller porter tous les bienfaits de l'initiative commune absolument partout. On sent que tu es rodé, Adrien. Moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de t'entendre sur les 2030 glorieuses, sur notamment cet aspect technologique. Donc, on va essayer de garder un peu de temps. On entrecoupe à chaque fois cet échange qu'on est en train de mener par un voyage à travers une lecture qui permet d'offrir une parenthèse d'inspiration et de nous ouvrir une fenêtre, un cap de quelque chose désirable. Nous, on a échangé depuis quelques semaines presque sur justement ta lecture et finalement, tu viens avec une lecture un peu particulière.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai vraiment eu du mal à trouver un roman d'anticipation qui représente une vision soutenable de ce que j'aimerais vivre plus tard, à savoir un monde beaucoup plus sobre, en lien étroit avec la nature, et puis où l'homme a une juste place dans son environnement, dans un univers qui favorise la coopération. Souvent, en fait, les livres d'anticipation vont traiter d'effondrement et vont mettre en place des scénarios de coopération post-apocalyptique. Et donc, après avoir lu plusieurs livres, j'en suis revenu en fait à une aventure que deux de mes amis portent, qui est la création depuis 3 ans bientôt d'une ferme en Ardèche qui s'appelle L'Abeille et la Blette. Et Marine a une très belle plume et elle relate leur récit en fait. Et pour moi, c'est un récit très inspirant puisque c'est un récit actuel. Et au travers de son blog, elle va mettre en avant plein de volets de leur aventure, que ce soit le retour à la terre, la reconversion, l'entraide, les liens qu'ils tissent dans leur réseau social autour de leur exploitation, les aléas de la vie d'un maraîcher puisque c'est pas de tout repos. Et c'est notamment sur ce volet-là que j'ai choisi un extrait. Et donc, il s'intitule « Les montagnes russes de l'abeille la Blette ». Avec l'été vient le temps des fêtes foraines, et qui dit fêtes foraines dit manège et attraction pour amateurs de sensations plus ou moins fortes. Chez l'abeille à la blette, c'est un peu comme si la fête foraine durait depuis près de 8 mois. Sans les churros et les barbes à papa, d'accord. Mais avec des montagnes russes, c'est sûrement les plus sensationnelles qui soient. C'est d'ailleurs souvent l'image avec laquelle on répond à la question fatidique « Et sinon, tout se passe bien, c'est pas trop dur ?» Émotionnellement et physiquement, nous avons l'impression d'être embarqués dans un petit chariot qui grimpe, puis dégringole, grimpe encore, semble se stabiliser, puis finalement pique du nez pour s'emballer et remonter la pente. Nos cœurs montent et descendent, mais restent bien accrochés. Ces dernières semaines n'ont pas échappé à la règle du petit chariot. La récolte des abricots est terminée et les bouteilles de nectar rangées, nous avons cru pouvoir souffler. Ou plutôt reprendre un rythme plus classique fait de semis, repiquage, récolte, binage, paillage, arrosage, etc. Il faut imaginer le chariot roulant tranquillement sur une portion bien horizontale. À ce moment-là, nous avons aussi géré la crise des surplus courgettes-concombres avec succès. Qu'est-ce qu'une crise de surplus courgettes-concombres ? C'est quand les plantes atteignent un bon gros pic de production et que l'offre surpasse la demande. Inutile de préciser que quand nous croulions sous les courgettes, les autres producteurs du coin aussi. Bref, nous avions des courgettes sur les bras. Heureusement, nous avons profité de la visite de Pascal et Jean-Paul, les parents de François, pour exporter en Franche-Comté quelques dizaines de kilos de courgettes et de concombres. Le volume de courgettes revenu à la normale, le petit chariot est en pleine remontée. S'en est suivie la première récolte de pommes de terre. Le rendement s'est avéré très correct, voire très bon par rapport à nos prévisions. Hop hop, un peu plus haut, sur les montagnes russes. Et puis, ils nous ont envahis. Nous les avions vus arriver, évidemment, près de notre cinquième section de culture, juste à l'angle, tout près de l'électrovanne. Nous avions tenté de gêner leur progression. Premier pipi dans un violon et zéro pointé. Ils ont commencé leur travail de sape, efficace et implacable, et notre morale a dégringolé sévère. Eux, ce sont les criquets. Jiminy, sa famille, ses amis, les amis de ses amis, les amis des amis des amis, en un mot, toute la clique. Nous avons tout tenté, enfin, dans la limite du possible et du raisonnable, pour démarrer chez Bio. Le D6 balancé en hélicoptère, on oublie. Le savon noir, peut-être qu'il ne manque pas le goût, aucun effet. Le purin d'urti, ça pue ça, et ça repousse les insectes, ils s'en fichent. Le purin de tomate alors, niette. On s'est évertué à réfléchir, et eux, ils continuent à manger, ou plutôt à se gaver. Après les premiers repiquages de choux chinois détruits à un temps record, un carnage sur celui des salades et leur progression au niveau des poireaux, nous nous sommes résignés à ouvrir notre porte-monnaie et à acheter des filets anti-insectes. Le filet est arrivé en même temps que les quelques 400 choux que nous devions repiquer. Hourra, malgré tout, les choses se coordonnaient bien, remontées en flèche du petit chariot des montagnes russes.
Adrien, on était sur les montagnes russes là.
Tout à fait, on était sur les montagnes russes de l'abeille et la blette, qui pour moi représentent ce que devrait être l'avenir pour tous et tous dans une certaine mesure, à savoir un retour à la terre massif et un exode urbain coordonné. Là, le plan de relance post-Covid, en fait, ça devrait être une financiarisation massive pour recoloniser les campagnes et revoir notre politique de résilience alimentaire drastiquement.
D'autant qu'à entendre tes amis, ça a l'air une aventure pleine de rebondissements, quelque chose d'à la fois passionnant, reconnecté au vivant, mais aux autres aussi, avec son lot de déconvenues, mais comme toute aventure humaine, en fait.
Tout à fait. Enfin, c'est aussi... Enfin, ça enlève un petit peu le côté souvent romantique qu'on peut avoir du retour à la terre, qu'on peut s'en faire, parce que c'est vraiment, enfin, c'est une aventure humaine. C'est d'autant plus dans cette période qu'on connaît climatique où les saisons sont de plus en plus détraquées. Il doit faire face au niveau du nord de l'Ardèche à des questions d'approvisionnement en eau. Enfin, on est en plein dedans là. Je veux dire, c'est vraiment un sujet. On ne peut plus d'actualité qui touche à plein d'enjeux transversaux, et on devrait tous s'y confronter, puisque demain, on ne va pas être capable de manger des iPhone 10.
Eh bien, ça tombe bien, Adrien, on est demain. On est en 2030 glorieuse, ça y est. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident. On va essayer de parler comme si nous étions directement les deux pieds dans 10 ans, une période où on a réussi. Réussi à quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en général, et tu l'as bien vu avec tes recherches littéraires, on a du mal à se laisser la place aux rêves, à l'utopie réaliste, et cette tendance à vivre dans un monde de dystopie, je pense qu'elle nous plombe, je pense qu'elle nous retient, je pense qu'elle ne nous offre pas d'autres caps que des caps d'effondrement, des caps de restriction et des choses qui nous font peur. Essayons pendant 15 minutes de se projeter dans un de ces potentiels 2030 glorieuses, parce qu'en plus, ce qui est assez génial avec ce jeu, c'est qu'il y en a des centaines, il y en a à l'infini, des millions. Et j'aimerais qu'on se projette dans cette période où finalement les choses vont mieux. Pourquoi ? Comment ? C'est à nous de le décider, c'est à nous d'en discuter. Ça y est, Adrien, tu es en 2030 glorieuse. C'est le voyage le plus loin que tu aies jamais fait et à la fois tu n'as pas encore généré un seul gramme de CO2 ou presque. Qu'est-ce que tu vois quand tu rouvres les yeux en 2030 glorieuse ?
Ah, je vois plein de choses. Je vois des points chauds de résilience uniformément répartis sur le territoire. Je vois une notion au voyage et à la mobilité drastiquement revue. Une reconnexion au vivant. Je vois des communautés qui sont pas tombées dans le repli sur soi, qui restent ouvertes tout en étant locales qui maximisent la coopération, que ce soit avec les hommes, mais également avec les autres espèces vivantes, puisque aujourd'hui on a une approche qui est beaucoup trop dominante. Donc demain on sera dans une approche de mutualisme et de symbiose.
Tu veux dire hier on avait une approche très dominante, hein? Ben oui.
On y est. C'est aujourd'hui. Nous sommes donc capables de plus exploiter notre environnement, mais de co-construire un environnement résilient avec ce qui nous entoure. Donc ça va se traduire par plein d'aménagements. Ça se traduit déjà en fait par plein d'aménagements. Par exemple, on va avoir plus besoin de se déplacer sur des centaines de kilomètres pour partir en congé. On se dépayse en voyageant à côté de chez soi, en redécouvrant son environnement proche, ou pourquoi pas en voyageant au plus long cours avec des autres moyens de locomotion. On imagine très facilement des voyages à vélo sur des très longues distances ou des trains de nuit qui viendraient à retrouver un usage récurrent. Et puis, bien sûr, notre rapport à la technologie a fondamentalement changé.
Mais justement, Adrien, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a quelques décennies en arrière, quand on nous parlait d'un futur souhaitable, tout d'un coup, en quelques secondes, on se projetait dans la Smart City. Tout était connecté, interconnecté, tout était innovant, tout était intelligent. Et en fait, le destin de 2030 Glorieuse, comme tu le dépeins toi, il n'a rien de celui d'Iron Man. Alors comment, en fait, on a fait en sorte que cette technologie, elle retrouve une place à hauteur d'être humain en 2030 Glorieuse ?
En fait, on a eu la chance de se prendre une grosse bâche dans la gueule qui s'appelle le Covid. C'était à l'époque en 2020 et ça nous a fondamentalement fait changer de braquet, parce qu'on a pris conscience à l'époque du manque de résilience de notre industrie, du manque de résilience de nos chaînes d'approvisionnement et grosso modo de l'hérésie dans laquelle on était en termes de consommation. Et à partir de là, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'observateurs qui ne croyaient pas du tout à l'époque, les choses ont fondamentalement changé. On a revu drastiquement nos besoins, en fait. C'est ça, en fait, qui était le point clé. C'était qu'on basait nos besoins sur des chimères. On était tout le temps dans la quête du toujours plus, du plus performant, du plus rapide, de l'immédiateté. On avait complètement mis ces impératifs-là au devant de nos besoins primaires, qui sont aujourd'hui comblés, mais qui étaient à l'époque complètement occultés, à savoir le besoin de se nourrir, de se vêtir, d'avoir un endroit où vivre qui soit le plus sobre possible, tout en s'émerveillant de ce qui nous entoure, de la nature, puisque on avait tendance à l'époque à regarder notre environnement au travers de nos smartphones, à prendre des photos de chaque repas qu'on mangeait au lieu de simplement le déguster et le manger en pleine conscience. Et donc, cette grosse crise a permis vraiment de faire un pas en arrière et de poser la question de l'essentialité de nos besoins. Et à partir de là, on a vraiment vu les choses se modifier. Et alors, sur le volet technologique, par exemple, à l'époque, on nous parlait de l'arrivée de la 5G. Eh bien, il s'avère que ça aurait conditionné, en fait, l'intégralité de la technologie en France, notamment à une dépendance, encore une fois, aux terres rares, à une dépendance technologique à la Chine. Ça aurait encore une nouvelle fois produit une quantité astronomique de déchets. Et là, incroyable, l'ARCEP s'est réveillé. Ils ont annulé le projet de déploiement de la 5G. Et ça a mis un terme à cette course en avant du toujours plus connecté, des smart cities, etc. Et on a commencé à repenser drastiquement l'urbanisme, non plus autour de l'ultra-connexion, mais autour de ceintures vertes d'alimentation. On a fait revenir la nature en ville, on a débétonné l'intégralité des trottoirs pour y faire pousser des cultures alimentaires là où c'était possible. On a revu les plans d'urbanisme pour favoriser les mobilités douces, en contrario avec la voiture, etc., etc. Donc vraiment, cette crise a été une opportunité. Et aujourd'hui, juste sur le plan technologique, on se satisfait du nécessaire, c'est-à-dire qu'on a conservé l'essence de ce que nous apportait le numérique, à savoir la capacité de mettre en lien les gens, la capacité de éventuellement redistribuer les ressources équitablement sur un territoire, l'accès à la connaissance. On a conservé tout ça grâce à des outils low-tech. On n'a plus aujourd'hui un smartphone par personne et 4 ordinateurs par famille. On a des habitats partagés, des lieux communs dans lesquels il y a par exemple 1 ou 2 ordinateurs pour l'accès à la connaissance et éventuellement un light phone pour la mobilité quand on a une personne de notre famille qui a besoin d'aller voir les collègues de la ferme d'à côté, mais bon, aujourd'hui ça prend un peu plus de temps pour aller les voir puisqu'ils sont à 150 km là, donc
un light phone, c'est un Nokia 3310 quoi.
Ouais, un light phone, ouais, c'est un concept, en fait c'est un concept révolutionnaire, hein, comme ils disaient à l'époque. Ça on a disrupté le concept du smartphone et en fait c'est un truc qui simplement, on a réinventé le 3310 quoi. C'est un téléphone pour téléphoner qui envoie des textos et qui a juste un outil de navigation GPS, mais il a un écran de liseuse électronique. De fait, ça consomme énormément moins en ressources. Et ça, en énergie, j'entends. Bien sûr, le light phone tel qu'on utilise aujourd'hui, il est ultra réparable et on n'en a pas 600 par personne. On en a un par famille, un par éco-village, etc., etc., juste pour les besoins de mobilité qui sont réduits aujourd'hui, parce que ça, c'est quelque chose à l'époque qu'on n'envisageait pas du tout, quoi.
J'entends qu'il y a la nécessité de revoir, nous, individuellement, la relation à la technologie. Et donc, je pense que là, il y a une grosse part d'éducation, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années en arrière, on avait vraiment une relation compulsive, notamment à notre smartphone. On avait besoin de l'avoir à côté de nous en s'endormant. C'est la première chose qu'on regardait en se réveillant, à tel point que, en fait, les plus jeunes passaient 2, 3, 4, 5 heures sur leur smartphone et ne pouvaient plus vivre sans. Il y avait même des signes de dépendance assez chroniques terribles, hein. J'entends aussi que cette technologie, elle peut être utilisée pour nous aider dans un futur de 2030 glorieuse. Moi, ma question, c'est comment on a réussi à décider de manière concrète, concertée, de ce qui valait le coup d'être creusé, d'être développé, de à quelle place, quelle priorité, quelles innovations on allait donner notre énergie, nos moyens, nos ressources, et à quelles innovations on allait dire en fait non, désolé, mais là l'écran toujours plus plat, je sais pas, le téléphone toujours plus puissant avec les 150 millions de pixels, on n'en a pas besoin. Comment on a redonné un sens à l'innovation ?
Là aussi, la crise a un tout petit peu aidé parce qu'elle a mis un petit pied dans la porte pour commencer à démanteler les GAFAM. Et donc, à partir de là, une fois que, parce qu'il y avait une fronde qui montait, même aux États-Unis, hein, contre ces entreprises monopolistiques qui régissaient notre vie quotidienne, et quand on a réussi à démanteler ces grands industriels, à partir de là, le champ des possibles était ouvert, puisqu'il n'y avait plus des acteurs qui dictaient la marche forcée vers la surconsommation et la dépendance à nos produits. Et les gouvernements se sont emparés de cette question. Ils ont chacun respectivement fait en sorte de relocaliser la production de leurs produits électroniques, mais des produits électroniques les plus sobres possibles pour accéder à la connaissance, etc. Donc, ils ont fait en sorte de relocaliser les chaînes de production et d'apporter, on va dire, de la connaissance auprès de la population pour qu'elle apprenne petit à petit à se passer de ces produits. Donc, ça a été vraiment un travail de longue haleine parce qu'il faut imaginer qu'on était vraiment dans une phase d'addiction très forte à ces objets-là. Donc, on a vu s'organiser des stages de désintoxication. On proposait des stages de reconnexion à la Terre. C'était un peu comme un service militaire, mais pour se reconnecter. Les jeunes étaient contraints au début, puis après, ça a été fait dans une certaine joyeuseté, à partir dans des semaines de formation où ils mettaient leur téléphone à l'entrée dans des box. Ils n'avaient pas le droit d'y toucher pendant 15 jours. Et on les reconnectait à la terre par l'intermédiaire d'activités autour de la permaculture, de l'agroforesterie, des simples observations de la voûte céleste. Parce que le soir, on avait l'habitude à l'époque d'être passé nos soirées sur Netflix. Mais après la crise, de par la réduction de consommation énergétique, on a commencé aussi à avoir une réduction de la pollution lumineuse, ce qui a redonné de la luminosité à notre voûte céleste. Et donc, de fait, on a vu se multiplier de plus en plus des stages d'observation nocturne qui ont passionné les jeunes, en fait. Donc, on a appris aux gens petit à petit à s'émerveiller du monde dans lequel ils s'entouraient par leurs propres yeux et non plus par l'intermédiaire d'un écran. Ça a été vraiment un travail très très long, mais ça a porté ses fruits. Et puis dans le même temps, on a stoppé tous ces projets stupides d'exploration spatiale comme on avait pu voir dans les années 2010 à 2020, notamment avec un point d'orgue en 2020 où Elon Musk commençait à envoyer des satellites pour coloniser l'espace, pour diffuser de l'internet par satellite, ce qui avait malheureusement pour effet de perturber la voûte céleste. Enfin bon, bref, c'était loin tout ça. Le projet Musk a été abandonné bien assez tôt et on en est satisfait aujourd'hui.
J'ai envie de participer à un stage de compréhension, de découverte de la voûte céleste. Tu m'as donné envie de faire ça là. C'est vrai que c'est passionnant.
Ouais, c'est, enfin, franchement, c'est mieux que toutes les séries qu'on a pu voir par le passé. C'est à la fois contemplatif et puis il y a des moments comme ça qui sont magnifiques. On va voir des fois un flash iridium. Alors bon, ça, c'est représentatif de l'activité humaine. C'est un satellite qui d'un coup devient très scintillant, ou d'autres fois, on va voir des étoiles filantes. Enfin, vraiment, c'est ça. Et puis ça nous remet à notre place, en fait. Ça a remis vraiment massivement les gens ou l'humanité là où elle était, à savoir une espèce parmi tant d'autres sur une terre infiniment petite dans un univers infiniment grand. Et ça, ça a apporté de l'humilité, en fait. Parce que c'est ça aussi, c'est ce dont on manquait en 2020, c'était de l'humilité. On se croyait l'espèce dominante qui pouvait gérer la vie et la mort de l'ensemble des espèces qui l'environnaient. Et donc là, ces stages-là ont aussi permis de remettre un peu les gens à leur place.
Adrien, on revient en 2020. La route, elle est encore longue. On a 10 ans devant nous pour atteindre un de ces caps de 2030 glorieuse. Et j'aimerais vraiment atteindre le cap qu'on vient d'ouvrir ensemble. Qu'est-ce que tu proposes à ceux qui nous ont écoutés? Quel serait le premier pas à faire pour justement marcher dans cette direction?
Le premier... Alors, il y en a tellement. Le premier pas... si vous pouvez, passez-vous de smartphone. Ça, c'est le premier pas.
On rappelle que tu travailles pour une coopérative qui loue des smartphones. Hein.
Oui, mais c'est mon discours récurrent. Donc, je veux dire, si jamais vous voulez limiter votre impact, il ne faut pas avoir de smartphone. Ça, c'est la base, en fait. Après, si jamais vous n'y arrivez pas, effectivement, vous pouvez souscrire à notre coopérative et soutenir notre initiative. Mais vraiment, juste aujourd'hui, il n'y a rien de parfait dans le secteur. Et la meilleure façon, c'est de ne pas avoir de smartphone. Surtout si vous avez des enfants. Mais alors ça, c'est genre la règle d'or. Éloignez-les au maximum des écrans, en fait. Mais genre jusqu'à 14 ans. C'est juste la base. Vous allez avoir des autistes décérébrés, incapables d'imaginer quoi que ce soit si vous leur donnez des écrans à 3 ans, quoi. C'est juste une infection. Ça fait partie des trucs qui me révoltent. Après, plus généralement, il y a plein d'actions à mener. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut d'une part faire ce qu'on est capable de faire à son échelle sans que ça devienne, un chemin de croix. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une consommation qui n'a pas d'impact. C'est très, très, très compliqué. Donc, il faut pouvoir s'engager sur les chemins qui nous parlent sans que ça devienne des contraintes immédiates. Et d'autre part, il faut aussi s'engager de manière beaucoup plus radicale et s'opposer à tout ce qui est révoltant. Et là, on peut parler éventuellement de désobéissance citoyenne, on peut parler de ce que font des collectifs tels que Action Non-Violente COP21, Alternatiba, qui d'un côté va proposer des alternatives et d'un autre va faire des actions de désobéissance pour s'opposer à des projets climaticides. Parce que pour moi, les deux vont de pair. On ne peut pas uniquement se dire qu'en tant que citoyen responsable par notre consommation, on va faire changer les choses. Si dans le même temps, on a des acteurs tels qu'Amazon qui arrivent sur le territoire avec leur vision hégémonique, destructrice d'emplois, d'environnement. Et enfin, on peut pas uniquement rester dans sa bulle de propositions d'alternatives, il faut aussi s'opposer, en fait.
Merci Adrien.
Eh bien, merci à toi.
Et voilà, ça y est, on vient de terminer cet échange avec Adrien. Vous l'avez senti, hein, c'est quelqu'un de passionné. Je suis particulièrement content de vous avoir donné la possibilité de l'écouter, de découvrir aussi la plateforme Common qui, à travers cette coopérative, a du sens parce qu'elle questionne vraiment notre modèle tant sur le modèle économique d'accumulation de la richesse, de vente à tout prix, que sur la question aussi de, voilà, vraiment, quelle est notre relation à la technologie. Quelle est notre autonomie par rapport à cette technologie, notamment en proposant des modèles qui sont particulièrement réparables et en plus qui ont une durée de vie allongée. Ce qui me semblait intéressant avec Adrien, c'était comment on arrive à mettre notre révolte, notre colère, avec aussi toute l'énergie qui peut parfois sembler être destinée uniquement à une fin destructrice, comment on peut mettre cette énergie justement au contraire à une fin positive, de construction à quelque chose qui sert la société. Adrien, on le sent de temps en temps, il s'emballe, il a des montées comme ça parce que cette énergie, elle bouillonne en lui et il a réussi à canaliser tout ce magma pour apporter quelque chose au monde et pour laisser la société dans laquelle il vit en meilleur état que ce qu'il l'a trouvé. Et je trouvais ça passionnant. J'espère que cette énergie aura rayonné et qu'elle vous aura donné envie de vous décoller un petit peu de vos smartphones et de regarder un peu plus les étoiles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !